Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle visite radiophonique. On retrouve Caroline Entraigue du Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de la Lozère. Bonjour Caro.
Bonjour.
Elsa Loupandine pour le Pays d'art et d'histoire, Mandelotte en Gévaudan, guide conférencière. Bonjour Elsa.
Bonjour Ludo.
Alors Caro, on va aller où aujourd'hui ?
Alors on quitte le musée de Mende et on va retourner sur le plateau du Roi.
Même si le site est quand même en ruine, il est extrêmement bien conservé. Parce qu'on a tous les éléments qu'on va retrouver systématiquement dans les châteaux à cette époque-là.
Visite radiophonique.
La chapelle, le logis et chaque bâtiment est positionné, non pas forcément sur une volonté de composition architecturale, mais vraiment en fonction de la place qu'on avait.
Visite
radiophonique.
Caroline Entraigue.
Nelly Lafont.
Une émission proposée par 48FM avec le Pays d'art et d'histoire Mende-et-Lot en Gévaudan et le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de la Lozère.
Allez, après 25 minutes de voiture au départ de Mende vers l'est du département, on est arrivé où, Caro ?
Alors ici, on est sur la commune de Laubert. On est sur la ligne de partage des eaux. On est justement sur le plateau du Roi, qui a fait l'objet d'une visite précédente. Et on est un peu au croisement de plusieurs unités paysagères. On est au sud de la montagne de la Margeride. Et c'est une grande croupe qui sépare un peu la Lozère en deux sur la partie haute, qui fait à peu près 50 km de long et 10 mètres de large. Alors on est sur ce plateau qui est à peu près à 1000 mètres d'altitude. On a les montagnes qui sont entre 1400 et 1550 pour le signal de Fortunio, le truc de Randon. Et on est ici à l'ouest de la plaine de Montbel qui est juste sur notre droite. Et on est bien sûr le long de la RN88 qui rejoint Mende à Langogne. Donc on passe, c'est une route qui est assez circulée, mais finalement on s'arrête peu sur cette petite commune de Laubert qui a pourtant un joli patrimoine.
On peut dire un mot sur l'histoire du village, Elsa ?
Eh ben, cette commune de Laubert, au départ, n'en était pas une. C'était une section qui appartenait à la commune d'Alinque. Et la commune d'Alinque perd cette section en 1854. Laubert est alors rattachée en fait, à la commune de Châteauneuf-de-Randon. Et ce n'est qu'en 1873 que Laubert est érigée en commune distincte. Donc ici, on est sur un village qui n'en était pas un dans l'histoire. On est plutôt sur c'était certainement plutôt un hameau ou un village un peu plus resserré que celui que l'on voit aujourd'hui. On voit sur les cadastres anciens qu'on était centré autour de ce monument sur lequel on est, autour de la maison seigneuriale. Et on avait quelques habitations autour de ce bâtiment principal. On est ici en contrebas de la montagne de la Margeride. On est ensoleillé plein sud, ce qui fait qu'on est à la fois un petit peu protégé du vent et un bel ensoleillement. On a deux petits ruisseaux, le Malaval et l'Escancide, qui sont dans ce petit vallon, qui permettent d'avoir des terres agricoles assez prospères. On sait qu'il y avait deux moulins de part et d'autre du village. On est dans un lieu quand même un petit peu protégé. Hein, on connaît le col de la Pierre Plantée, qui est juste au-dessus de nous, comme étant une zone très froide, propice à la neige. Ici, à Laubert, on est dans un climat un tout petit peu plus protégé du fait de cette position en vallon. Donc la plupart des maisons sont assez classiques, hein, de forme rectangulaire, construites en granit, comme on le voit sur la plupart des hameaux du secteur. On n'est pas orienté le long de la rue, mais vraiment positionné face au sud, hein, pour venir récupérer cette lumière. Et là, on est juste à la frontière avec les espaces de prairie, et on voit un petit paysage qu'on appelle un bocage. Hein, on voit tous ces arbres qui viennent souligner ces beaux murets en pierre et qui font la distinction entre l'espace bâti et l'espace des prés. On avait autour souvent des petits jardins, potagers, etc., qui faisaient le tour du village. Donc on a un joli petit patrimoine dans la commune, même autour, avec ce joli petit patrimoine paysager de bocage. Et du coup, le village s'est développé donc autour de cette maison seigneuriale que Elsa va nous présenter tout à l'heure. Et on a eu un développement plus récent sous forme de lotissement sur la partie ouest du village qui rejoint un gros bâtiment qui accueille un restaurant et un gîte d'étape en liaison avec l'aménagement de la station de ski de Laubert dont on avait parlé la dernière fois.
Donc là, on est juste à côté de cette maison seigneuriale dont Caro nous parlait. Elsa, j'imagine qu'elle a une histoire, cette maison.
En effet, comme vous le disiez, Caro, le hameau de l'Aubert s'est vraiment développé autour de cette possession seigneuriale. On parlait de petites maisons de plan rectangulaire, de cette séparation entre la partie bâtie et la partie de prairie, la partie plus agricole. La vocation de l'Aubert, dès le départ, était une vocation agricole, puisque c'était le chapitre de la cathédrale de Mende qui était propriétaire de ce territoire et qui en avait véritablement un usage exclusivement agricole. La première mention du château de l'Aubert date de 1346 et ça ne doit pas remonter au-delà de 1322, date à laquelle on sait que le chapitre est le seul seigneur de l'Aubert. Le chapitre entretenait un capitaine pour garder le fort, le château de l'Aubert et assurer la sécurité du territoire. Donc ce capitaine, il devait être fidèle au chapitre, c'est-à-dire qu'il devait garder le château, la forteresse, et ne la livrer qu'au chapitre ou à son célérier. Le célérier, c'était le religieux qui était en charge de l'administration de tous les vivres, en fait, pour le chapitre. D'où, véritablement, la vocation de grenier du hameau de l'Aubert. Uniquement pour l'utilité de ce corps ecclésiastique qu'était le chapitre.
Allez, on va se déplacer un petit peu, on va monter vers le haut du village.
Donc là, Ludo, tu vois, on remonte un petit peu et on voit autour de cette maison qui est aujourd'hui un petit peu en ruine, ce qu'on appelle une accolade gothique, cette petite pique là, sur le linteau au-dessus de la porte. Donc c'est quelque chose qui est ancien et qui parle un petit peu de ce passé moyenâgeux de l'Aubert.
Donc on parlait des bâtiments d'habitation, de plan rectangulaire, et puis on se rend compte aussi qu'il y avait des bâtiments à fonction complètement agricole, comme cette ancienne grange là, qui est dans le prolongement de la maison dont vient de vous parler Caro, et où donc là on a véritablement la trace d'un bâtiment agricole qui date de la période à laquelle le chapitre de la cathédrale de Mende était seigneur des lieux et utilisait l'Aubert comme une source vivrière. Certes, la vie du hameau de l'Aubert a été rythmée par la puissance du chapitre cathédrale de Mende, etc. Mais le château de l'Aubert a aussi connu un épisode un petit peu rocambolesque, en tout cas qui est resté dans les annales, puisqu'on a trouvé des traces dans les archives d'une effraction dans le château de l'Aubert. Tout à fait, Ludo. C'était une nuit du 31 juillet où en fait une jeune fille, Claudine Moulin, âgée de 18 ans, s'était réfugiée au château de l'Aubert parce que après la fête patronale, elle était poursuivie par des bergers qui vraisemblablement devaient avoir un petit peu trop forcé sur la boisson, et donc elle a trouvé refuge au château de l'Aubert et le capitaine lui a ouvert les portes du château, lui a permis de se mettre à l'abri, sauf que en fait on s'est aperçu que au moment où le capitaine avait laissé Claudine seule, elle est quand même restée sur place 3 ou 4 jours, les barreaux d'une fenêtre avaient été arrachés et qu'on s'était introduit dans le château au moyen d'échelles. 3 personnes s'étaient alors introduites dans la chambre de Claudine Moulin et l'un d'eux l'avait malheureusement outragé. Et donc des dépositions ont été faites à ce moment-là et ce sont ces dépositions qui nous ont permis de vraiment connaître la configuration du château. Et donc Caroline, si tu veux nous parler un peu plus de ce château médiéval.
Oui, alors il faut savoir que ce château médiéval, aujourd'hui, on le perçoit peu, puisqu'il a été reconstruit par la suite, mais Elsa vous le présentera. Donc ce château médiéval, il était composé d'une haute tour qui formait une partie de l'enceinte, enceinte qui abritait forcément les maisons, où les villageois venaient se réfugier en cas d'attaque. Les fenêtres étaient situées à peu près 15 mètres de haut, donc ça c'est les fameux textes dont parlait Elsa qui nous le décrivent, et donc ça faisait une tour d'à peu près 18-20 mètres de haut. On avait un escalier qui était dans l'épaisseur du mur, et on avait 2 chambres superposées, celle du capitaine en haut et celle de la jeune fille en dessous. On avait une cheminée dans celle du capitaine. Et ensuite, on avait forcément des écuries, des étables en bas de la tour. Ça, aujourd'hui, on en a peu de traces. C'est vraiment grâce aux écrits de ce pauvre événement, en quelque sorte, qu'on sait à quoi ressemblait le château, au XVIe.
C'est fou, ça, qu'un fait divers nous permette de retrouver les plans finalement du château.
C'est vrai que cette description du château à cette période-là est extrêmement précise, puisqu'en fait la description a été utilisée comme à charge pour les assaillants, donc pour décrire en fait leur déambulation et comment ils avaient pu accéder à la chambre de Claudine Moulin. Il a fallu décrire les lieux, et ce document est extrêmement précieux parce qu'il nous donne à voir et à nous représenter de manière très précise cet équipement défensif donc du chapitre cathédrale. Alors malheureusement, ce château disparaît complètement au XVIe siècle. Enfin, ce château, voilà, maintenant qu'on vous l'a un petit peu décrit, vous pouvez vous rendre compte que c'était plus une tour fortifiée que véritablement un gros ensemble maçonné. Mais voilà, cet édifice disparaît au XVIe siècle, puisque Mathieu Merle, donc il a pris la ville de Mende en 1579, il fait brûler et raser les châteaux de Balsièges, Recoulettes, du Chastel-Nouvel, de Montialou et de l'Aubert. Et donc ce château a dû être reconstruit, toujours sur son emplacement d'origine, et plusieurs mentions de travaux à faire au château de l'Aubert nous permettent de savoir que le chapitre, voilà, a procédé à des travaux en 1657 et en 1716.
Ce qu'on propose, c'est de redescendre au château pour regarder un peu ce qui reste de cette reconstruction.
Allez, on y va. Pourquoi il est fait brûler au lieu d'en prendre possession ?
Parce qu'il n'a pas les troupes pour tenir les châteaux, les terres qu'il ravage. Et donc, vu qu'il n'a pas les troupes, plutôt que d'avoir des terres dont il ne peut pas maîtriser l'équipement défensif, eh bien, il détruit l'équipement défensif pour ne pas que d'autres puissent s'en emparer.
Les capitaines qui ont tenu ce lieu, il y en avait des connus ou pas du tout ?
Non, pas du tout. En tout cas, aucun dont le nom ne soit resté dans l'histoire, mis à part celui de l'épisode de Claudine Moulin.
Allez, on est redescendu, et donc là, il y a l'église, et il y a donc, comment on peut appeler ce bâtiment qui nous reste
On peut appeler ça une maison seigneuriale plutôt qu'un château. Ce qui est intéressant sur ce bâtiment, c'est qu'on voit un changement de fonction en lisant les façades. Donc on peut voir ici ce qu'on appelle des corbeaux, c'est ces grandes pierres qui dépassent à chaque angle du château, qui devaient maintenir des tourettes, des échauguettes, ou en tout cas une petite tour, qui sont des éléments défensifs. En éléments défensifs aussi, tu peux regarder, Ludo, il y a une meurtrière qui a été murée. On voit bien l'enduit sur cette partie-là. Donc la façade arrière de ce château est complètement fermée, très peu d'ouverture. Et par contre, de l'autre côté, on va s'avancer un petit peu, on va pouvoir lire la façade sud de ce château, qui elle est une façade beaucoup plus ouverte. On va pouvoir voir des fenêtres à meneaux et traverses qui montrent la fonction là plutôt résidentielle de ce bâtiment-là. Donc on a vraiment sur ce bâtiment un changement de fonction entre la partie défensive qu'on lit très bien côté église et la partie résidentielle qu'on peut voir sur la façade sud. Donc on est passé un peu d'un fort au XIVe siècle, qui est ce bâtiment qui a justement été détruit, que nous a très bien décrit Elsa tout à l'heure, à un édifice du XVIIe siècle, plutôt avec une fonction résidentielle. On a un bâtiment qui est quand même sur quatre niveaux, qui est un bâtiment assez haut. On voit de très grandes ouvertures avec ces fameux meneaux et traverses, donc c'est les croix que l'on peut lire sur la façade, qui ont vraiment une fonction de faire entrer la lumière et d'avoir des pièces un peu plus d'apparat, beaucoup plus lumineuses. Et donc cette maison, elle a un plan rectangulaire, que l'on lit très bien, donc un plan assez simple, assez défensif. On a peu de bâtiments annexes qui sont présents. Donc ce que je disais, on a un bâtiment qui a une fonction résidentielle, et donc au rez-de-chaussée, on a un bel escalier central avec une répartition un peu symétrique des pièces, donc une à gauche, une à droite. Et donc au rez-de-chaussée, on a la cuisine, et de l'autre, une salle qui semble peut-être avoir servi de chapelle. Et les étages, eux, sont des chambres.
Donc les éléments défensifs qui ont aujourd'hui disparu et dont vous parlez, Caro, en fait, on en a une mention également par un abbé, l'abbé Bernard, qui écrit que dans sa monographie sur la famille Valentin, famille dont on va reparler quand on abordera la question de l'Église, que ces quatre tours d'angle ont été supprimées pour éviter les impositions. Donc date à laquelle, elles ont été détruites et murées. Puisqu'aujourd'hui, en effet, on voit les corbeaux et au-dessus de ces corbeaux, l'emplacement originel des tours d'angle est muré. Donc, On peut s'interroger évidemment sur les motivations du chapitre hein, quand ils ont construit cet édifice, d'autant plus lorsqu'on sait que tous les fiefs qui ont été endommagés au moment des guerres de religion, on en parlait tout à l'heure avec Mathieu Merle, n'ont pas fait l'objet de reconstruction. Le fort du Chassel, par exemple, dont on sait qu'il a été détruit, n'a jamais été reconstruit après 1580. Donc la seigneurie de l'Aubert semblait, à l'époque, jouir d'un statut particulier. Alors, il faudrait pouvoir le préciser un peu davantage, mais vraisemblablement, c'était une possession qui était importante pour le chapitre de cathédrale de Mende.
La route à l'époque passait plus près, le chemin de... était accolé à ce point de passage ou était au niveau de la RN 88 d'aujourd'hui ?
Alors, ça permettait en effet de sécuriser les voies de communication allant jusqu'à Mende. Donc c'était un avant-poste en quelque sorte qui permettait de protéger la ville épiscopale. Mais voilà, on a quand même un bâtiment qui, lorsqu'il a été reconstruit, avait certes des éléments défensifs qui ont après été complètement occultés pour transformer la vocation de ce bâtiment en vocation résidentielle, comme le disait Caro tout à l'heure.
On arrive à l'époque de la Révolution, Elsa ?
Oui, tout à fait. Et à l'époque de la Révolution, on observe quelque chose qui est très présent hein, à l'Aubert. C'est ce lien très fort entre le pouvoir religieux et le pouvoir laïque, puisque le curé de l'Aubert et le seigneur de l'Aubert entretiennent des liens très forts et que les seigneurs, la famille Valentin, qui prend le relais en fait localement du clergé et du chapitre cathédral dans l'administration du territoire de l'Aubert, entretiennent des liens très proches avec l'Église. Et donc le curé de l'Aubert, au moment de la Révolution, vient se cacher au château. Et quand les soldats arrivent de Mende pour s'emparer de lui, tout ne va pas se passer comme ils auraient pu s'y attendre. C'est-à-dire qu'ils s'arrêtent pour boire un coup et faire boire les chevaux. Et à ce moment-là, la patronne qui s'occupait d'eux offre une goutte au chef, s'assure de leur état d'ébriété et demande la permission d'aller au château pour aller chercher de l'avoine pour les chevaux. Y allant, elle glisse dans son sac des habits de femme, et quand les soldats arrivent au château après leur halte, ils voient sortir une femme avec un sac de grains sur le dos. Ils croient alors que c'est la patronne et la laissent passer. Sauf que quelqu'un fait la réflexion, ce n'est pas tout à fait la femme qui est rentrée tout à l'heure, mais trop tard, le curé était sauvé.
On a plein d'anecdotes pendant les visites.
C'est bien.
L'Aubert est riche, en fait, en témoignages de la vie quotidienne, contrairement à d'autres communes où on a du bâti, mais on n'a pas forcément l'histoire qui allait avec. Ici, on a un élément massif de bâti, donc cette maison forte, maison seigneuriale, et on sait ce qui s'y est passé à l'occasion donc de témoignages comme ça qui égrènent l'histoire de la ville de l'Aubert.
Et peut-être pour te reparler un peu de l'histoire, un peu de l'Aubert, donc sur sa composition, on avait dit que les bâtiments, le village était autour de cette fameuse maison seigneuriale. Et donc, juste devant nous, cette cour était en fait une voie communale que le propriétaire du château a acquis, mais qu'en 1893. À l'origine, c'était vraiment une voie communale, donc il faut imaginer qu'autour de ce bâtiment, on avait vraiment des voies et pas cette fonction vraiment résidentielle avec le parc devant, etc. Et donc, ce bout de terrain a servi pour construire l'école communale qui est en bordure de la route nationale.
Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui habite dans cette maison seigneuriale, on le sait ou pas ?
Alors, il n'y a personne qui y habite, il y a toujours un propriétaire qui est un propriétaire particulier, mais la maison n'est pas occupée à l'année.
À côté de cette maison seigneuriale, un lavoir comme dans beaucoup de villages lausériens.
Oui, la commune de l'Aubert a un joli petit patrimoine vernaculaire. Juste derrière nous, il y a le Ferradou. On a ici un lavoir qui vaut le coup qu'on en parle un petit peu parce qu'il est assez atypique. Il a ici une charpente dite à la Philibert de l'Orme, on en avait parlé, hein. Celle dite aussi en coque de bateau, qui est un exemple assez tardif parce qu'il a été construit en 1853 ou 1857, comme l'indique la pierre sur la fontaine. Donc c'est vraiment... ces toitures, on les trouve plutôt sur la vallée du Lot. Donc là, c'est vraiment un clin d'œil, une reconstruction d'une toiture à la Philibert sur un territoire où finalement il n'y en a plus.
Allez, on va se décaler juste à côté de ce lavoir pour aller voir cette belle église. Donc ce lavoir, juste à côté, ce lavoir construit en 1853, juste à côté de l'église en 1822.
Oui, mais alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette église n'est pas le premier lieu de culte de l'Aubert. Au départ, l'Aubert n'avait que des chapelles et plusieurs édifices se sont succédés et pas à cet emplacement sur lequel se dresse actuellement l'église de l'Aubert. Les premières chapelles étaient vraisemblablement plus près du cours d'eau, en contrebas de la demeure seigneuriale, entre la demeure seigneuriale en fait et la nationale, et ces édifices ont été très souvent endommagés. Alors l'hypothèse qu'on peut faire, c'est que vu qu'ils étaient à proximité du cours d'eau, les édifices n'étaient pas sains et progressivement tombaient régulièrement en ruine. On a des traces de nombreux travaux qui ont été faits. Alors bien entendu, il y a eu des dégradations dans le cadre des guerres de religion, puisqu'on sait que la première chapelle a été démolie par les protestants. Elle a été ensuite reconstruite, restaurée par un maçon de Villefort, Jean Novel, en 1619. Et à nouveau, cet édifice était très certainement détruit en 1636. Donc vous voyez, une vingtaine d'années plus tard, et il a fallu la refaire bâtir en 1773. Alors, compte tenu que plus d'un siècle sépare ces deux dates, on peut supposer que la première chapelle a été détruite, consolidée, et que les travaux de 1773 concernent une nouvelle construction. Donc, l'emplacement de ces différents édifices est très difficile à déterminer, de même donc que les causes réelles de dégradation. Donc, on a ici l'église actuelle qui date de 1822, et donc Caro va vous parler.
Oui, donc là on est sur une église, comme le disait Elsa, un petit peu plus récente. On retrouve donc sur la façade principale ce qu'on appelle un clocher peigne, on peut aussi l'appeler un clocher mur. On retrouvait la même chose sur l'église d'Alain qui était un petit peu plus proche. Là on a juste une hauteur de peigne avec quatre arches pour les cloches. L'entrée se fait sur le côté, par cet arc plein cintre et cette porte un petit peu sculptée avec quelques motifs floraux, une petite fleur de lys sur la partie haute. Et on voit que cette église est entourée également de constructions. Bon, une maison d'habitation qui est sur le côté et on n'a plus du tout le cimetière par contre autour de cette église qui a disparu et qui est devenue un jardin. Donc une église assez simple, assez modeste, j'ai envie de dire, mais qui est plutôt bien construite, et on te propose d'aller voir à l'intérieur.
Ce qu'on va préciser, juste avant de rentrer dans l'édifice, parce qu'on vous disait que c'est une église actuelle qui est venue remplacer des chapelles, dans le vocabulaire, il y a une différence. Une chapelle et une église, c'est pas tout à fait la même chose. Et en fait, celle-ci date de 1822 parce qu'elle est postérieure en fait à l'érection de l'Aubert en succursale. Au début, les habitants de l'Aubert dépendaient de l'église d'Alenc et ils se sont mobilisés au travers d'une pétition en 1780 pour que l'Aubert soit érigé en succursale. Alors, plusieurs arguments sont venus étayer leur demande, notamment les conditions météo, puisque l'hiver, la neige rendait le chemin à Alenc impraticable. En cas de brouillard, les gens s'égaraient. Les enfants mouraient parfois sans baptême ou en allant à Alenc pour recevoir le baptême. Et pareil, les malades mouraient régulièrement sans avoir reçu les derniers sacrements. D'autre part, il arrivait fréquemment que les villageois doivent garder les corps des défunts plusieurs jours sans sépulture parce que le chemin jusqu'à Alenc était totalement impraticable. Et donc l'Aubert est finalement érigé après plusieurs demandes en succursale en 1820 et l'église sera construite deux ans plus tard en 1822 sur une parcelle donnée par la fameuse famille Valentin dont on a déjà parlé tout à l'heure. Quelques mots sur ces Valentins, pour bien comprendre comment en fait la vie quotidienne de l'Aubert a évolué avec l'omniprésence de cette famille. Eh bien, c'est qu'on disait tout à l'heure que l'Aubert avait été une propriété du chapitre cathédral de Mende pendant toute la période de l'Ancien Régime. À partir de la Révolution, on a un nouveau pouvoir qui s'installe, qui est le pouvoir de cette famille locale, la famille des Valentins, qui va être très représentée dans les institutions mondoise, qui va être vraiment omniprésente et qui, dans tous les corps de métier de notables, va s'illustrer. Elle va avoir la fortune qui va avec et donc va vraiment fonctionner comme un seigneur laïque qu'on va retrouver à l'Aubert et qui va être déterminant dans l'évolution de la commune, notamment au travers de la construction de cette église.
Il n'y avait pas de clocher des tourmentes ici, Caro?
Alors, non, alors il n'y avait pas de clocher de tourmente. Certainement pas de clocher de tourmente. Pourquoi je dis certainement ? Parce que quand on a fait les recherches sur les clochers de tourmente, certains écrits parlent d'un clocher de tourmente sur l'Aubert. On n'en a pas trouvé de traces, si ce n'est que voilà, l'écrit de monsieur Morel, Charles Morel, qui parlait d'un clocher de tourmente ici à l'Aubert. Mais voilà, les historiens locaux et la visite du village n'a pas permis de trouver ce fameux clocher de tourmente, mais c'est vrai que par rapport à ce que racontait Elsa, ça aurait pu se justifier au même titre que celui de la Fage qu'on avait visité hein, sur la commune de Saint-Étienne du Val-d'Aunès.
On est rentré dans cette église, une très belle petite église.
Oui, alors d'un point de vue architectural, elle est assez sobre, hein, avec deux petites chapelles de part et d'autre, et le chœur. Ce qui est très intéressant dans cette église, c'est pas forcément son architecture, mais vraiment son patrimoine mobilier et toutes ces constructions en bois de petites chapelles que va vous décrire Elsa.
Oui, très décorée.
Donc en effet, elle est très décorée, mais le mobilier va de pair avec l'architecture, puisque les habitants de l'Aubert font bâtir leur chapelle sur un terrain qui a été donné par M. Valentin, ce dont on parlait tout à l'heure. Pour payer les maçons, les habitants vendent une partie des communaux. M. Valentin lui-même achète le coudert et il est taxé personnellement pour le traitement du prêtre. Ce qu'il faut savoir également, c'est que les habitants ont charrié volontairement tous les matériaux pour la construction de cette église. Et en signe de reconnaissance, on accorde la propriété de la chapelle Saint-Barnabé, donc une des deux chapelles latérales, ainsi qu'un banc dans la chapelle à la famille Valentin. Et c'est M. Valentin qui a procuré tout le mobilier de l'église, payé en partie les trois cloches. Donc sur les cloches, on voit que Valentin, père et fils, sont les parrains de ces cloches. Ils ont donné le presbytère avec la cour et le jardin, ils ont donné les statues, les reliques, dont une de la vraie croix, un ostensoir, une patène, et dans son inventaire, eh bien, Ignon dispose d'une photographie qui montre le retable de l'autel avec un tableau de l'Assomption de la Vierge au centre, mais qui a malheureusement disparu. Donc l'ensemble du retable vraisemblablement est en place, à l'exception de la partie centrale, donc de ce tableau, dont on ignore ce qu'il est advenu. Dans le mobilier, on a également la chance donc, d'avoir un Christ en bois. Alors ne vous faites pas, ne vous laissez pas désorienter par la disposition. Le Christ en bois dont on vous parle n'est pas celui qui est dans le chœur, mais bien celui qui est face à vous quand vous entrez par le côté donc, de la nef. On a également donc ce Christ en bois, hein, Christ en bois qui est classé monument historique depuis 1923 et qui est vraisemblablement un Christ datant du 15e siècle. On a également qui soutient la chaire un atlante de l'ancien jubé de la cathédrale de Mende, qui date du XVIIe siècle, qui est inscrit également au titre des monuments historiques depuis 1974, sachant qu'il reste très peu d'exemplaires de ces atlantes en bois et que les deux seuls autres exemplaires qui restent sont dans les collections du musée de Mende. Et puis donc le retable dont je vous parlais, qui date du XVIIIe siècle, qui est inscrit également au titre des monuments historiques, une Vierge à l'enfant, également inscrite au titre des monuments historiques, et dans une chapelle, donc une toile, chapelle latérale à droite, représentant Saint-Dominique et Sainte-Catherine de Sienne qui reçoivent le rosaire de la Vierge Marie. Donc un mobilier, en effet, d'une grande richesse et d'une grande diversité.
Peut-être pour le décrire aux auditeurs, donc la chaire, c'est la partie donc, qu'on voit sur la gauche qui servait à prononcer du coup les textes. Et donc dessous, l'Atlante, c'est une statue d'homme torse nu qui vient porter du coup ce petit élément en bois. Sur le retable, on voit des petites colonnettes peintes avec des sculptées avec des motifs floraux qui sont dorés sur un fond gris. On a énormément de détails de boiseries qui sont très intéressants.
C'est vrai que le retable, donc avec ses colonnes torses dont vient de vous parler Caroline, dans sa composition, se rapproche énormément du mobilier baroque qu'on peut trouver dans certains édifices catholiques.
Allez, on sort de cette église et on va clôturer l'émission. On va aller au soleil. Est-ce qu'il y a une actualité sur ce village de l'Aubert, Caro ?
L'actualité principale, c'est que le restaurant de l'Auberge qui est à côté du gîte d'étape et du camping, qui est maintenant devenu une zone résidentielle, a changé de propriétaire récemment. Voilà, on peut dire que c'est l'actualité principale de l'Auberge, en plus de celle qu'on avait dit du coup sur le plateau du Roi.
Une anecdote pour briller en société ?
Ludo, est-ce que tu sais pourquoi l'Auberge est inscrit au Guinness Book des records ?
Non, je ne sais pas.
Eh bien, parce que Morgane Toulouse est devenue la plus jeune dessinatrice de timbre-poste à l'âge de 9 ans. C'est elle qui a réalisé le timbre de l'an 2000.
Super ! Elle habite toujours ici, hein, Morgane Toulouse ?
Hein ? Langocha.
Qu'on te propose, c'est de demander au bar si elle est encore présente aujourd'hui.
Allez, on va y aller. Et en y allant, on va rappeler à nos auditeurs que c'est l'émission de juin, c'est donc la dernière de cette saison septembre-juin. On va quand même se retrouver en septembre prochain sans donner la destination, parce que c'est un peu loin, on ne l'a pas encore décidé, Caro.
Ben non, on ne l'a pas encore décidé. Par contre, on vous laisse 2 mois pour visiter tous ces beaux lieux qu'on vous a présentés durant l'année.
Voilà, et qu'on vous rediffusera pendant tout l'été toutes ces émissions faites cette année. Merci Elsa.
De rien Ludo.